Hello les distordus! Si vous aimez Distorsion, vous allez sans aucun doute adorer le balado Dérive disponible sur Radio-Canada Audio. Tout comme nous, le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard adore démystifier des phénomènes scientifiques et dans la troisième saison du balado Dérive, intitulé « Les secrets de la mafia médicale », Olivier étudie le parcours de ces scientifiques qui ont défendu des idées marginales ou même dangereuses et dévoile leur impact méconnu sur la société. Le tout en s'appuyant sur l'histoire incroyable du chanteur québécois Bernard Lachance, décédé du sida en 2021, maladie dont il niait l'existence. Personnellement, j'ai dévoré le balado d'un bout à l'autre en un week-end, rivé à mes écouteurs. Dérive ainsi que plusieurs autres balados pour tous les goûts, dont plusieurs balados d'enquête et de mystère, sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Téléchargez dès maintenant l'appli Radio-Canada Audio sur les plateformes Apple ou Android. Bonne écoute! Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien aussi parce qu'on a un épisode spécial aujourd'hui.
Oui.
Dans le cadre de notre partenariat avec l'Université de Montréal, oui. Vous savez, on est partenaire avec eux, notamment en ce qui a trait au certificat en enquête et renseignement de la Faculté de l'éducation permanente. Mm-hmm. Et on a eu la chance de rencontrer Guillaume Louis,
oui.
En fait, qui est le responsable de ce programme-là, de ce certificat-là. Et lui, c'est un spécialiste en profilage.
Oui.
Puis aussi en criminel en série.
Oui, exactement. Parce que une chose que j'ai appris avec lui, c'est qu'un des crimes en série, c'est pas juste des tueurs. Hein?
Ben non.
C'est des gens qui peuvent, des pyromanes qui mettent des incendies, des voleurs, toutes sortes de personnes qui répètent des crimes à répétition, qui sont direct dans ma tête. Quelqu'un qui est spécialisé pour les crimes en série, c'était juste les tueurs. On dirait que là-dessus,
ben oui.
ils m'ont ouvert une nouvelle porte de type de crime.
Et un autre sujet qui l'intéresse beaucoup, lui, c'est les tueurs de masse.
Oui.
Et au Québec, on a eu la tuerie du collège Dawson,
oui.
Qui avait fait énormément parler, qui avait choqué énormément en 2006, en fait le 13 septembre 2006. C'est là où Kim Virgil est entré au collège Dawson, armé comme un commando, et s'est mis à tirer sur des gens. Il a fait une victime et 19 blessés.
Oui.
Puis c'est un des cas, un des premiers cas de tuerie de masse qui a été énormément documenté sur les réseaux sociaux et sur le web. Évidemment, lui... consultait un site web où il s'est un peu radicalisé en ligne progressivement. Et en discutant avec Guillaume, on s'est dit que ça serait intéressant de faire un cas là-dessus, étant donné que ça touche au sujet de distorsion, mais aussi à sa spécialité, là, les crimes en série, le profilage et tout ça. Donc, on va discuter dans un premier temps avec lui de qu'est-ce qu'il fait donc à l'Université de Montréal en lien avec le certificat d'enquête et renseignement, parce que je suis convaincu que ça va vous intéresser. Mais on va parler de profilage aussi, comment lui collabore avec les forces de l'ordre pour tenter de trouver le profil des criminels. Et puis, on va faire, justement, en deuxième partie, on va analyser le cas de Kim Virgil et de la tuerie de Dawson. Donc, ça risque d'être très intéressant. On a aussi enregistré un segment pour nos abonnés Oui Monsieur sur Patreon. Donc, ceux qui paient le forfait de 7$ vont avoir un segment exclusif avec Guillaume, où là, on va vraiment parler de crimes en série un peu plus profondément, avec l'exemple de Guy Croteau, donc l'homme aux 10 visages, un meurtrier, mais aussi violeur en série québécois. Et on va tenter de voir avec l'expertise de Guillaume comment ils ont profilé ce criminel-là. Donc, ça risque d'être très intéressant. Ce segment-là va être en exclusivité pour nos abonnés Oui Monsieur sur Patreon.
Oui. Puis en plus de ça, si après avoir écouté l'épisode, vous voulez voir plus de Guillaume Louis, sachez qu'il y a un épisode, une série en fait qui est spécialisée sur les tueurs en série qui s'appelle « Sur les traces d'un tueur en série » qui est diffusée au Québec à Canal D et sur Crave, le service Crave. Il y a quelques épisodes déjà diffusés, c'est excellent. Justement, il suit le cas de Guy Croteau, mais de d'autres cas de tueurs en série ou du moins de crimes en série qui n'ont pas trouvé de coupable. Donc, c'est une excellente émission que Guillaume participe aussi.
Exactement. Sinon, on n'a pas le choix de vous dire un petit mot, en fait, sur ce certificat en enquête et renseignement, parce que nous, ça nous donne toujours envie de retourner à l'école quand on en parle. Si ça vous intéresse, les admissions sont en cours à l'Université de Montréal. C'est un cours de premier cycle de 30 crédits.
Oui.
C'est pour les gens de tous horizons qui sont intéressés au travail d'enquêteur, que ce soit dans des milieux professionnels ou criminels. Au terme du programme, vous serez apte à mener une enquête de A à Z. Donc, c'est excellent pour compléter une formation existante, par exemple, un baccalauréat par cumul.
Oui.
ou encore réorienter sa carrière. Donc, on peut faire un bac par cumul, entre autres, avec ce certificat-là, mais on peut aussi faire un certificat en criminologie, par exemple, ou autre. Donc, c'est très intéressant. Les admissions sont en cours. Si ça vous intéresse, aux étudiants de partout, en passant, que vous soyez européen ou canadien, vous vous rendez au fep.umontréal.ca. FEP, c'est pour la Faculté d'éducation permanente. Donc, fep.umontréal.ca.
La FEP.
Exactement. Et je crois qu'on a une bière de la semaine en plus aujourd'hui, Seb, une très bonne même.
Absolument, parce qu'il fallait accompagner cet épisode spécial avec une bonne bière. C'est la New England IPA de la microbrasserie Le Castor qu'on aime beaucoup à Distorsion. C'est une excellente bière, 6,3% d'alcool. Honnêtement, c'est depuis la Boréale Nord-Est, c'est un de mes nouveaux coups de cœur pour ce style de bière-là. Elle possède des houblons mosaïques, Eldorado et Citra. Elle a une belle couleur trouble, puis elle est excellente. Elle goûte le bon jus houblonné. Elle goûte les agrumes. Elle est vraiment fantastique, honnêtement. Donc, c'est la New England IPA du Castor.
On a aussi des remerciements pour des nouveaux membres Patreon. Si on est prêt à se lancer là-dedans, allons-y, mon cher Seb, je te laisse commencer.
Merci, Jean-Christophe, de ton support.
On veut aussi donner un gros shout-out à Caroline D. Merci à toi.
Mathieu D. aussi.
Jacinthe, merci de ton support. Grâce à toi, Distorsion n'en serait pas là.
Merci, Marie-Pierre.
Josiane avec un Y, j'imagine que tu sais qui tu es. Shout-out à toi.
Et on remercie aussi Stéphanie qui, grâce à toi, on est meilleur.
Merci aussi à Hélène G. Respect à toi.
On remercie aussi Romain qui nous encourage sur Patreon.
Et pour finir, Marc. Merci à toi, Marc. Un gros shout-out pour ton encouragement.
Oh yeah!
Là-dessus, est-ce qu'on est prêt à aller rejoindre Guillaume Louis pour ce spécial profilage et tueur de masse?
Oui, monsieur.
C'est parti.
Oh yeah.
Voici donc en présence de Guillaume Louis. Comment ça va, Guillaume? C'est un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir.
Ben, merci, messieurs. Ça va fort bien. Puis je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de venir dans le cadre de votre podcast. Vraiment. Très apprécié.
Ben, merci à toi de venir partager ton expertise. Je suis convaincu que les distordus vont adorer t'entendre autant que Émile et moi, on a adoré t'entendre lorsqu'on discutait un peu de l'épisode d'aujourd'hui. Pour préparer tout ça, moi, je buvais tes paroles. Je trouvais ça vraiment passionnant.
Oui, ça risque d'être un épisode assez intéressant. Mais tout d'abord, Guillaume, j'aimerais que tu nous parles un peu peut-être rapidement de ton parcours. C'est parti de où ton intérêt vers les enquêtes, mais aussi le profilage et les criminels en série?
En fait, c'est parti assez tôt dans ma carrière étudiantine. Je me trouvais à faire des études de droit à Poitiers, en France. Puis je dois avouer que j'étais probablement un très piètre juriste. C'était une dimension qui m'intéressait, était le droit criminel, mais dans le cadre de toutes les études qu'on était amené à effectuer, le droit criminel était seulement une petite pointe de la pizza qu'on me servait. Et finalement, j'ai essayé de trouver quelque chose qui me permette de me raccrocher à un intérêt universitaire. Je me suis aperçu que la même université, la même faculté de droit, offrait un diplôme universitaire en sciences criminelles et en droit pénal. Fait que je me suis inscrit, alors que j'étais en deuxième année de droit, à ce diplôme-là. Et ça a été toute une découverte. Découverte de plein de matières vraiment intéressante, certaines de police scientifique, de criminalistique, d'autres qui visaient plus une approche de personnalité criminelle, puis un cours de criminologie. À partir de ce moment-là, l'intérêt a été vraiment, vraiment fixé et je me suis mis à dévorer toute la littérature qui pouvait porter sur, et qui était accessible pour un petit étudiant français, à la bibliothèque de la faculté de droit. Et à ce moment-là, vu que cet intérêt ne cessait de grossir, je suis allé voir le doyen de ma faculté pour lui dire que les études de droit, c'était pas nécessairement quelque chose vers lequel je me destinais en termes professionnels. Et je lui ai demandé d'essayer de me trouver, de me placer dans des univers professionnels de travail. Et il a accepté. Donc, il a échangé les cours obligatoires contre des formations. Il m'a envoyé sur une période de 3 ans visiter des milieux de pratique connexes au crime, à la criminologie. Donc, j'ai travaillé d'abord dans l'aide aux victimes, puis après avoir relativement fait le tour des apprentissages que je pouvais faire, je suis retourné le voir, puis là il m'a dit, je vais t'adjoindre à une enquêteur de personnalité. Puis l'enquête de personnalité, c'est une forme de profilage où on va reconstituer la trajectoire de vie d'un individu arrêté, qui est dans le cadre de son procès en attente de sentence, pour remonter de sa naissance jusqu'à l'acte qui lui est reproché, pour essayer de dérouler le fil d'Ariane et comprendre finalement ce qui l'a poussé vers son agir criminel.
Ça, c'était une de tes premières approches vers le monde des enquêtes, d'une certaine manière, ce travail-là.
Exact. Et j'ai suivi cet enquêteur pendant pratiquement 2 ans, d'abord comme stagiaire, puis par la suite comme enquêteur de personnalité.
Puis à la base, est-ce que tu avais de l'intérêt pour les documentaires policiers, par exemple, ou l'histoire des tueurs en série plus jeune? Est-ce que tu avais cet intérêt-là, cette fibre-là en toi?
Oui, évidemment. En fait, c'est un intérêt que j'ai perdu par la suite, que j'ai perdu à travailler au quotidien sur cet objet qu'est le crime. Mais lorsqu'effectivement c'était un intérêt, une passion vers laquelle j'avais envie de me projeter, oui, je dévorais les polars et aussi effectivement tout ce qui est littérature sur les tueurs sériels.
Puis qu'est-ce qui t'a amené au Québec? Je suis curieux d'en savoir plus là-dessus. Maintenant, t'es responsable du certificat d'enquête et renseignement de la faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là dans ton parcours?
Une rencontre. Alors que j'effectuais toujours ces mêmes études de droit très très rébarbatives, un professeur de l'école de criminologie de Montréal, professeur émérite, qui s'appelle Maurice Cusson, est venu donner une conférence, une présentation, une communication qui a duré à peu près 2 heures dans ma faculté. Et puis, ça a été 2 heures de plaisir intense à l'écouter, puis surtout de voir qu'il y avait une issue possible. À la fin de la conférence, je me suis précipité dans la ligne des personnes qui étaient là pour le questionner ou le remercier. Puis je lui ai demandé vraiment cash, qu'est-ce que ça prend pour venir chez vous? Et donc il m'a dit, termine tes études, termine ta maîtrise de droit, essaye, puis c'est ce que je faisais à ce moment-là, d'engranger des expériences dans la discipline. Puis pose ta candidature, et éventuellement ça va fonctionner. C'est ce que j'ai fait au terme de ma maîtrise, j'ai appliqué pour venir à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. Puis j'ai eu la chance d'être admis. Fait que j'ai recommencé une scolarité, mais cette fois dans la discipline qui m'était chère, la criminologie. Fait que ma scolarité a été comme l'ensemble de ma scolarité, avec un certain nombre de hauts, mais aussi pas mal de bas. Fait que j'ai fait ma maîtrise et déposé mon mémoire. Puis je suis allé très rapidement avec un passage accéléré au doctorat. Où j'ai effectué 5 années pour finalement suspendre le doctorat à la naissance de mon deuxième enfant, puis par la suite finalement abandonner cette trajectoire-là.
Puis dans tes mots, où est-ce que ça peut mener les étudiants de faire le certificat d'enquête et renseignement?
Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de l'enquête est un monde qui est excessivement large et vaste. Ouais. Et que finalement, l'enquête policière, qui correspond au stéréotype de l'enquête et même à ce que certains considèrent comme un prototype, n'en est véritablement plus un, puisque la plupart, l'essentiel, probablement plus de 80% des enquêtes se font en dehors du monde policier. Puis le programme du certificat en enquête et renseignement a justement comme vocation de former tous ces enquêteurs qui vont être à l'extérieur de la profession policière. Fait qu'on parle ici de l'enquête administrative, de l'enquête privée, donc d'institutions qui sont publiques, parapubliques, qui sont des grandes institutions bancaires ou, encore une fois, des grandes entreprises, puis l'ensemble du secteur de la sécurité privée.
Parce que les gens qui veulent vraiment être enquêteurs de police doivent faire l'école de police, évidemment.
Effectivement. Oui. C'est la trajectoire réservée qui commande à celui qui aspire un jour à vouloir faire de l'enquête policière, d'aller faire sa technique, puis d'aller faire sa formation de base en patrouille gendarmerie à l'École nationale de police du Québec, Puis ensuite d'être sur le bitume, de patrouiller pendant un certain nombre d'années avant que de pouvoir prétendre à devenir sergent détective puis enquêter. L'enseignement va être axé sur cette dimension pratique via l'étude de cas. Donc, ce qu'ils ont à faire, c'est ce qu'ils vont recevoir. Ce sont des dossiers d'enquête que nous avons écrits ou fait écrire par des professionnels qui sont inspirés à coller directement avec un véritable dossier, une véritable réalité d'enquête, et changer évidemment pour les biens de la cause. Et donc, l'étudiant ici va devoir passer au travers d'un certain nombre de stratégies et techniques d'enquête autour de cet environnement qui reflète l'environnement professionnel. Donc on parle tout autant de la rigueur du processus de l'enquête, et notamment donc dans la constitution de modèles d'enquête, de planification pour se projeter dans l'enquête, que de stratégie d'enquête, quelle stratégie est opportune, à quel moment l'utiliser. Également, bien évidemment, toutes les dimensions qui ont trait à la preuve, à la recherche de la preuve, et solidifier le fait d'obtenir la preuve de manière légitime en fonction de son cadre juridique d'enquête, donc tout ce qui est mandat de perquisition, saisie, demande juridique et autres. Également, ils vont passer au travers des techniques d'entrevue pour savoir réaliser, comme il se doit, une bonne entrevue, qu'il s'agisse d'une entrevue d'une victime, d'un témoin ou d'un suspect. Bref, autour toujours de cette idée de travail d'équipe qui représente la réalité du terrain de l'enquêteur, puis vraiment ancré très fort dans la pratique.
On t'a vu, Guillaume, en fin janvier dernier dans la série documentaire sur les traces d'un tueur en série diffusée sur Crave et sur Canal D. Tu sembles vraiment avoir développé une expertise dans le domaine des crimes en série. Puis tout à l'heure, on va avoir la chance d'analyser le cas de Kim Virgil et de la tuerie du collège Dawson. Mais avant ça, j'aimerais un peu qu'on discute un peu de cette expertise-là que tu as autour des crimes en série, puis aussi du profilage. On vous a vu dans la série documentaire justement effectuer le profilage d'un possible tueur en série qui aurait peut-être sévi sur le plateau Mont-Royal à la fin des années 70, début des années 80. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette expertise-là de crime en série juste avant qu'on saute dans le vif du sujet?
Avec plaisir. En fait, tout simplement, je me suis accolé à une expertise déjà existante. Okay. Mes connaissances et les recherches que j'ai réalisées sur les crimes sériels sont à côté sur mon expérience de travail dans ces dernières années, qui était essentiellement tournée vers l'enseignement. Et une grosse partie de cet enseignement s'est faite à l'École nationale de police du Québec, à Nicolet, où j'ai été formateur aux enquêtes dans le cours d'analyse criminologique sur l'enquête criminelle pendant un peu plus de 11 ans. Puis pendant cette grosse décennie, j'ai, à raison de vraiment beaucoup de formations par année, bah, j'ai eu l'occasion de cerner qu'une des problématiques majeures à laquelle étaient confrontés les corps policiers, en termes tant de ressources que de coûts de victimisation, étaient ces crimes sériels. On parle ici de criminels très prolifiques, qu'est-ce qu'on appelle le noyau dur de la criminalité, qui peut représenter jusqu'à 10% des criminels, mais qui va être responsable de jusqu'à 60% de l'activité criminelle. Ouais. Nos criminels sériels comptent figurent parmi ce noyau dur de la criminalité. Ils sont donc excessivement productifs, et ce qui entraîne évidemment, en termes de ressources, de contingences économiques, les corps policiers vers cette nécessité que de très rapidement court-circuiter les séries criminelles.
Quel rôle joue l'arrivée de l'ère numérique dans les techniques de profilage? Parce que maintenant, il y a plein plein d'autres facteurs au niveau de l'empreinte comportementale qu'on peut aller chercher au niveau de ce que, par exemple, les sites web que fréquente une personne ou les réseaux sociaux ou ses comportements même sur Google et tout ça. Comment justement la technologie puis l'ère numérique a influencé le profilage de criminels en série?
Bah, d'abord, la technologie, puis je pense que tous les deux qui êtes des aficionados de ça, vous allez très bien comprendre que la première chose qu'elle a affectée, c'est le renseignement. La capacité d'accumuler du renseignement, puis la capacité de coupler des renseignements. Puis là, tu parlais notamment de suivi d'un individu sur des plateformes numériques. Ça, c'est d'une richesse absolument incroyable et qui nourrit le profil, de savoir qu'est-ce qui est consommé par l'individu dans sa vie secrète, lui et son ordinateur, est évidemment quelque chose qui est un outil extraordinaire par rapport à il y a juste quelques années même. Sur d'autres techniques également, on a eu des avancées de manière évidente. On parlait tout à l'heure de profilage géographique. Il existe des logiciels qui effectuent ce profilage géographique.
J'en profite pour faire un lien vers l'histoire qu'on voulait analyser, en fait, parce que, bon, on parle de technologie, comment l'ère numérique a permis de faciliter le travail au niveau de la recherche d'empreintes comportementales. Quand on s'était rencontrés pour la première fois, Guillaume, tu nous avais parlé du cas de Kim Virgil et aussi de la tuerie de Dawson, en fait, qui est survenue le 13 septembre 2006, où Kim Virgil s'est rendu au collège Dawson, armé, et il a fait un mort et 19 blessés pour ensuite s'enlever la vie. C'est une histoire qui a complètement choqué le Québec. Oui. Tu nous décrivais cette histoire-là comme une des premières où les réseaux sociaux ont joué un grand rôle. J'en profite pour nous lancer là-dedans. Est-ce que tu veux nous en parler un peu, Guillaume?
Oui, effectivement. Bon, il y avait eu déjà un certain nombre de traces numériques qui avaient été laissées par d'autres auteurs de fusillades scolaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que essentiellement, c'est le point de départ ici. Tu l'as dit, c'est ôter la vie. Les fusillades scolaires, c'est avant d'être un passage à l'acte criminel, essentiellement, un suicide. Un suicide qui va être teinté d'une certaine réalité qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder tout à l'heure, c'est-à-dire sortir de l'anonymat dans lequel baignent ces auteurs. Effectivement, avant Kim Wigel, il existe tout un tas d'auteurs de fusillades scolaires qui ont laissé du matériel. Une des différences notables avec le dossier de Kim Wigel, puis à quelque part sa richesse, c'est de pouvoir suivre Kim Veer au quotidien sur une période de temps très longue, mais avec une chronologie. Ce que l'on observait avant, essentiellement, était que une fois la fusillade réalisée, lorsque les enquêteurs débarquaient au domicile de l'auteur de la fusillade, ils retrouvaient effectivement beaucoup de documentation, saisissaient sur leurs ordinateurs énormément de matériel, de textes, de vidéos.
Comme c'était le cas des tueurs de Columbine.
Exactement, ouais. Exactement, avec là une quantité d'informations surprenantes. Mais dans le dossier de Kim Wigel, c'est vraiment que l'on peut le suivre pas à pas dans son quotidien, puisque la première entrée que l'on peut retrouver de Kim Wigel sur un site sur lequel on va être amené à revenir, Vampire Freaks, c'est en décembre précédent. C'est pas tout à fait une année avant son passage à l'acte, mais c'est 10 mois finalement avant son passage à l'acte, à raison d'un grand nombre d'entrées, de postes par jour, de photographies, de discussions. Fait qu'on est là en mesure de reconstruire cette trajectoire sur 10 mois. Et pour la recherche, pour la compréhension, d'avoir cette trame temporelle qui manquait finalement auparavant, est essentielle pour comprendre quels ont été les différents éléments qui sont venus nourrir la construction du personnage, puis finalement nourrir son passage à l'acte.
C'était quel type de jeune homme, Kim Virgil?
Un jeune homme très isolé. C'est quelque chose que, finalement qui définit assez bien la réalité des auteurs des fusillades scolaires. C'est le portrait de jeunes qui ont énormément de difficultés à développer puis à maintenir des interactions sociales normales, humaines. Ils en vivent évidemment un profond isolement, puisque l'on peut lire dans le rapport du coroner qui fait suite à cette fusillade-là, c'est que sa solitude dure depuis des mois pendant lesquels il a coupé tous ses liens sociaux, y compris ceux avec sa famille, qui généralement sont les derniers qui vous retiennent à passer à l'acte. C'est un degré de solitude qui est quasiment inimaginable. Ce qui fait en sorte que ces jeunes ont une perception d'eux-mêmes comme étant des marginaux. C'est pas nécessairement les autres même si ça va arriver à terme, qui vont accoler cette étiquette
Ouais.
de marginal, c'est le jeune qui lui-même se sent être différent. Et cette différence entraîne son retrait social, entraîne cette extrême solitude. Puis c'est ce qui explique aussi leur omniprésence, aujourd'hui qu'ils existent, sur les réseaux sociaux. Ils y sont présents pas pour passer du temps, pas pour tuer le temps, mais pour exister.
Oui, ben, ils ont le reflet un peu de gens comme eux, donc l'esprit de communauté, ces gens-là vont le rechercher aussi en ligne. Puis étant donné qu'il n'y a pas de, je suis dans l'hypothèse, hein, mais étant donné qu'ils n'ont pas de contact social, physique, ça doit être plus facile pour des gens qui s'isolent ou qui ont de la difficulté à avoir des rapports sociaux, de justement avoir ces rapports sociaux-là, mais en ligne, ça les nourrit d'une certaine
Ça
manière.
les nourrit et ça nourrit quelque chose qui est essentiel pour l'être humain, c'est le concept du nous. Okay? Parce que ce nous est ce qui échappe à ces jeunes-là. Et là, en revanche, où ça devient problématique, c'est que bien souvent, ce nous, qui est façonné par l'identité numérique des personnes qui composent ce groupe-là, bah, c'est le nous contre les autres. Et les autres est à la fois une menace et la source de frustration. Et généralement, c'est cet autre-là qui va être visé dans le passage à l'acte. Une des premières motivations, c'est un type de passage à l'acte qui peut être analysé comme une stricte vengeance. Vengeance de quelqu'un qui est isolé et qui reproche aux autres d'être responsable de cet isolement, d'être responsable de ce mal-être. Puisque on voit bien ça justement dans le parcours de Kim Weigel, et là encore, sa présence sur Vampire Freaks nous offre cette richesse et cette fenêtre pour comprendre ce processus-là. Ce que je disais tout à l'heure, ce sont des jeunes qui sont isolés, sont incapables donc de développer des interactions, mais qui sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Puis en 2002, il y avait eu une recherche fort intéressante qui avait été réalisée par plusieurs chercheurs. Le chercheur principal s'appelait Harding. Puis sa recherche portait à regarder, bah, c'est quoi les modèles de hotness, en français on pourrait traduire ça comme la désirabilité sociale des jeunes. Et donc ils avaient séquencé parmi la population de jeunes adolescents, jeunes adultes aux États-Unis, quels étaient les modèles qui inspiraient chez à peu près tout un chacun de cette population-là l'envie d'en faire partie. Donc c'est une véritable pyramide de hotness, pyramide de désirabilité sociale. Et au terme de cette lecture-là, on comprend qu'évidemment, ces jeunes se perçoivent et puis, sous le regard des autres par la suite, sont perçus comme étant tout en bas de cette pyramide de désirabilité, mais que tous essayent d'une manière ou d'une autre dans les mois qui précèdent ou l'année qui précède, si on prend la fusillade à Columbine, de prendre un élévateur social, d'essayer de s'accoler à un groupe qui soit en dehors de cette masse critique qui est appelée dans l'étude les loners, donc les solitaires, puis les losers, les perdants. Mais cette tentative de s'élever va toujours être bloquée justement par les autres. Et c'est en fonction de qui sont les autres que lorsque la vengeance va s'exprimer par le passage à l'acte, par la fusillade, ce sont eux qui vont être les victimes, qui vont être visées. Puisqu'on retrouve tout en haut de cette pyramide, ce sont les jocks, les sportifs, puis les preps, jeunes fils et filles de bonne famille en moyen.
Oui, parce qu'on retrouve une forme de langage, de nomenclature. Un peu, on a fait un épisode sur les incels, on retrouve un peu ce type de jargon-là, les Chad, les Stacy, qui sont un peu les filles et les garçons qui sont au top de la
Populaire,
hotness, là, de la
c'est
chaîne
ça, les
alimentaire, si
populaires.
on veut.
Exact, exact. Puis tu vois, avec justesse, ce que tu soulignes, c'est que ce sont eux qui vont être visés. D'ailleurs, si on regarde le déroulement, encore une fois, des entrées de Kim Bigel sur Vampire Freaks. On est juste à aller un mois après qu'il arrive sur Vampire Freaks, qu'un de ses postes assez longs s'appelle Jocks and Preps. Puis, d'ores et déjà, ce qu'on voit, c'est que 9 mois avant l'acte, 9 mois avant la fusillade, sont clairement identifiés ceux contre lesquels il va tourner sa frustration et sa rage. Puis on retrouve un article très similaire la veille de son passage à l'acte.
Quel type de site c'est Vampire Freaks, en fait? Quel type de communauté c'est? Parce qu'on se replonge, on est en
Oui.
2005-2006, on est dans les débuts des réseaux sociaux, il
C'est les
devait
forums.
avoir MySpace, mais pas encore Facebook et
Non,
Twitter, tout
non,
ça.
exact.
Ça ressemblait à quoi la communauté de Vampire Freaks?
Ouais, c'était un forum qui, au gré des mois, comptait jusqu'à, de mémoire, 2 millions d'adhérents.
Quand même, hein?
Ouais, mais il y avait probablement un certain nombre de doublons dans les
Oui.
profils. Mais non, c'est une plateforme qui est, comme tu le soulignes, c'est ben, un forum, une espèce de site de rencontre, de chat en même temps, qui offre à cette plateforme plusieurs avantages dans la manière dont elle était structurée. C'est-à-dire que c'est effectivement une place qui se vendait comme rassemblant les populations underground en termes musicaux, en termes de vestimentaire, de sous-culture finalement. Et donc, qui était une expression de ces contre-cultures ou de ces sous-cultures, mais qui offrait également la possibilité d'avoir un profil. Okay? Un profil nourri d'entrées quotidiennes, donc des posts au quotidien qui s'inscrivaient sur le profil. Puis, Vampire Freaks a été plusieurs fois confronté à des événements violents. D'ailleurs, en quelques mois, deux fois sur le territoire du Canada, Vampire Freaks va ressortir comme un lien entre des sous-cultures underground, puis des faits de grande violence, parce que avant même la fusillade de Dawson, où là c'est le Journal de Montréal de mémoire qui va tout de suite faire l'association entre Vampire Freaks puis Kim Vigil, dans le mois ou les mois précédents son passage à l'acte, il y avait eu en Alberta, je crois, un autre dossier criminel où il y avait eu trois décès. En fait, c'était une jeune mineure âgée de 12-13 ans qui avait assassiné ses parents puis son petit frère de 8 ans suite à la rencontre qu'elle avait faite avec un majeur âgé de 23 ans de mémoire sur Vampire Freaks. C'est au terme de leur échange, de ce qui était rapporté à l'époque, que ce projet criminel aurait été nourri. C'est une plateforme qui a été mise de l'avant lorsque les médias ont fait une association entre sous-culture d'une part, puis passage à l'acte,
Oui, les
violent.
médias sont bons pour ça, pour faire des
Effectivement.
corrélations assez rapides. Mais c'est drôle parce que, selon les témoignages que je lisais, supposément que Kim Vergil était quelqu'un de... parce qu'il a lâché l'école, hein, je pense, un an avant ou quelque chose comme ça, mais ça a l'air que même sa famille et des amis du temps qu'il fréquentait l'école disaient que c'était quelqu'un de sociable, qui avait des bonnes notes, qui s'intégrait quand même bien. On dirait qu'il y a eu une coupure ou une cassure à quelque part. Et je me pose la question, est-ce que le fait d'aller sur des sites comme Vampire Freaks, justement, ça devient des chambres à écho dont on a souvent jasé, que ça te radicalise d'une certaine manière. Oui, t'es peut-être un peu attiré vers ça, mais je sens qu'il y a peut-être eu il y a un événement qui a dû se produire.
Mais je suis pas sûr, Seb, parce que si on regarde la chronologie de la présence de Kim Vigil, ce Vampire Freaks, tu sais, une des entrées dont je te parlais tout à l'heure est dès le mois de janvier, donc un mois après son arrivée sur Vampire Freaks, et qu'il y aurait eu un processus de radicalisation. Non, je pense
Ouais.
que son arrivée sur Vampire Freaks coïncide, en revanche, t'as raison, avec cet isolement qui commence, puis. La marginalité, c'est pas un état, hein, c'est une
Ouais, je
trajectoire.
comprends.
C'est quelque chose qui se produit à terme. Et oui, effectivement, si on regarde certains des échanges avec d'autres interlocuteurs, pardon, sur Vampire Freaks, oui, on se nourrit de commentaires qui sont toujours. Ouais, quand tu réanalyses après, c'est plus des jokes, mais qui probablement pour une partie de ses utilisateurs en était où on se nourrit de ce concept-là. Mais non, je pense que l'arrivée de Kim Vigil puis sa démarche sur Vampire Freak, c'est pour compenser le mal-être qu'il vit au quotidien. Cette incapacité, donc, parce que oui, il a été décrit à un moment donné comme un individu social, mais ce que l'on voit, c'est que au travers de ses expériences d'emploi, l'armée, il va toujours quitter très rapidement pour pas être confronté avec l'autre. Et notamment, on a dit de lui, dans certaines expertises, qu'il avait peur de l'autre, okay, un trouble de personnalité paranoïaque. Et Vampire Freak, c'est pour lui un refuge. Et pour lui un refuge, je parlais tout à l'heure de cette fameuse pyramide de Hotness, puis j'y reviens, puis parce que pour moi, c'est une des raisons probables qui motive Kim Weigel à être si actif sur Vampire Freaks. N'arrivant pas donc dans les plateformes réelles à s'élever au sein donc de cette pyramide qui va pas en recréer une, mais qui va aspirer sur une plateforme, cette fois numérique, virtuelle, à devenir quelqu'un. Puisque l'on voit sur ces 10 mois, c'est que très souvent, il va commenter, son statut va être de commenter, pardon, le nombre de likes qu'il a reçus. 666. Hein, quelques jours plus tard, 777. Et c'est une course à l'amour. Et le profil qui va se créer de Fatality 666 sur Vampire Freaks, le profil de Kim Weigel, c'est un profil pour se distinguer, pour être quelqu'un, pour exister aux yeux des autres. Ce que l'on voit dans ces échanges avec la communauté de Vampire Freaks, c'est qu'il va s'adresser à un certain nombre d'inconnus avec comme seule question dans le message qui leur envoie, Rate me. Évalue mon profil de 1 à 10, donc d'une échelle de hotness. Puis il était parmi ceux qui scoraient, là, j'ai son score ici, son rating, c'est de son profil, c'est de 9,88 sur 10. Okay?
Ah, quand même.
Oui, je comprends ton argument de dire que ces plateformes-là peuvent nourrir et je peux pas te donner tort là-dessus. Effectivement, ces échanges, ces bravades peuvent nourrir quelque chose, mais je pense que ça a raison. Première, essentielle d'être sur cette plateforme, c'est d'exister.
Oui. C'est comme un peu une version pré-Instagram ou pré-Facebook, là. De ce que je comprends de ça, en fait, la culture du like ou de la recherche de l'amour par le web était déjà présente même à une époque où ce que ces gros réseaux sociaux-là n'existaient même pas,
Oui,
là.
t'as raison.
Je suis curieux de savoir comment s'est passé son processus entre justement lorsqu'il a rejoint ce forum-là, puis son passage à l'acte. Tu dis que c'est environ 10 mois. Comment tu peux penser de fantasmer comme ça au sein d'une sous-culture jusqu'à vraiment te rendre dans un collège pour faire une fusillade?
Ok, si on s'en tient, écoute, si on s'en tient à la recherche et à la littérature qui est sur les fusillades scolaires, comme en fait n'importe quelle problématique humaine, c'est quelque chose de plus complexe qu'une relation unidirectionnelle avec un seul facteur. Ainsi, donc, ce que l'on considère souvent, c'est qu'il faut que 5 conditions, 5 facteurs soient présents avant même qu'il puisse se dérouler un passage à l'acte criminel. Puis, cette idée de sous-culture et de sous-culture de violence ou de sous-culture dans laquelle on aurait une re des représentations de la violence n'est qu'un seul de ces 5 facteurs. À côté, inévitablement, c'est que pour que des représentations de violence puissent entraîner une capacité d'identification et que cette identification devienne le moteur du passage à l'acte, bah, ça prend notamment des troubles de personnalité ou des abus de substance. Puis ici, dans le dossier de Kim Weigel, bah, tu trouves les deux. Vous avez tous les deux lu, je pense,
Oui.
le dossier et le rapport du coroner. On voit ici un nihilisme qu'on peut qualifier de sévère, okay, avec un grand nombre de consommations au quotidien. D'ailleurs, ça se voit sur ses statuts puis ses posts, où est inclus déjà, tu parlais de précurseur de Facebook, le mood.
Oui.
Et dans les moods, c'est souvent drunk, hyper drunk.
Ouais.
Okay, fait ici, on a l'utilisation de l'alcool. Puis l'alcool est probablement utilisé par Kim Weigel pour anesthésier sa souffrance, son mal-être, sa douleur. Parce que de se sentir exclu et de se sentir marginal, différent, occasionne vraiment un déficit identitaire, une souffrance importante. Et je pense qu'ici, cette consommation est utilisée vraiment pour apaiser, anesthésier pratiquement cette douleur. Mais on le sait, ça peut être quelque chose qui va précipiter un passage à l'acte. D'ailleurs, C'est triste, mais ça, la dernière entrée, le dernier poste de Kim Weigel, qui est un tout petit peu plus d'une heure avant la fusillade à Dawson, c'est le whisky le matin. C'est bon. Okay. Puis, encore une fois, si on regarde le rapport du pathologiste, bah, il avait une alcoolémie quand même assez importante. L'autre chose qu'on remarque, non seulement il y a cet abus de substance, mais il y a également des troubles de personnalité. Puis ici, on voit que c'est un cycle de dépressif assez sévère, chronique aussi, chez Kim Weigel. Avec, malgré tout, des consultations.
Ok, il était
Puis,
suivi, hein, ouais, c'est ça, ouais.
il était suivi, les médicaments n'ont pas fonctionné. Fait que le médecin a accepté qu'il ne les prenne plus, mais par la suite, le suivi s'est fait sur une base de moins en moins régulière, puis a complètement disparu. Et donc, encore une fois, ici, on a cette longue période d'intense solitude, de dépression, nourri aussi par la consommation qui précipite l'acte. Fait que oui, la sous-culture est quelque chose, une dimension qu'on ne peut pas effacer, puis qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. C'est évident qu'il y a, pour un passage à l'acte d'une telle nature, d'autres éléments à prendre en considération.
Est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse journée du 13 septembre 2006?
La première chose qu'il faut retenir de cette journée de septembre, c'est que dans ce triste événement, elle aura modifié certaines pratiques. Puis ici, et puis ça a été salué à l'époque, rappelez-vous, l'intervention policière a probablement permis de sauver un nombre incalculable de vies, parce que alors même que Kim Weigel a donc en tête d'aller faire sa fusillade à Dawson, qu'il est surarmé, il a en sa possession trois armes, l'arme avec laquelle il va rentrer, avec laquelle il a un rattachement symbolique, qui est une arme de précision, il a aussi un Glock, une arme de poing, puis il
Parce
a...
qu'il a fait il a fait l'armée, en fait, Kim
Oh,
V. Hein.
oui. Oui, effectivement, mais juste
Mais pas
quelques
longtemps, ouais.
mois, juste quelques mois. En revanche, il a une réelle fascination pour les armes à feu. Puis la troisième arme qu'il a en sa possession, c'est un fusil à pompe automatique, ce qui aurait été
Ah,
dévastateur dans des couloirs d'école, beaucoup plus finalement que l'arme de précision qu'il a en sa possession. Sauf que ça en fait beaucoup de matériel, parce qu'il faut aussi beaucoup de munitions pour tout ça. Fait qu'il a vraiment beaucoup de poids sur les épaules lorsqu'il débarque et se stationne pour aller à Dawson. Tant et si bien qu'il prend un passant et, sous la menace de son arme à feu, lui donne un de ses sacs qui contient ses beaucoup de munitions, puis qui contient de mémoire également le fusil à pompe. Qu'il a sur lui son Glock, son arme de poing, puis à la ceinture, puis son arme de précision. Et donc il avance avec ce passant qui porte le sac, lorsqu'arrive une autopatrouille du SPVM, mais une autopatrouille qui n'est pas en réponse à l'appel
Non,
qui
c'est ça.
vient d'être logé sur quelqu'un a vu un homme armé qui s'en va vers Dawson. Non, ce sont des patrouilleurs qui viennent faire une intervention sur les stupéfiants. Puis pour faire dégager un petit peu et se stationner le groupe d'étudiants qui est devant l'établissement d'enseignement, oui, ils envoient un petit coup d'avertisseur sonore. Et donc tout de suite, ben, ça plonge Kim Weigel dans une séquence qu'il n'avait pas prévue. Il n'a pas encore commencé son passage à l'acte, qui se pense être déjà sous le coup d'une intervention policière, ce qui, à ce moment-là, n'est pas strictement le cas.
Il est déstabilisé un peu.
Il est très déstabilisé. Il perd le contrôle de sa trame narrative à lui, de son scénario. Et ça le fait agir, ça le fait réagir. Et cette réaction, qui va être de sortir son arme et malheureusement d'arroser à la ronde ses étudiants qui étaient devant le collège Dawson, ben évidemment avec cette autopatrouille qui est à quelques dizaines de mètres, entraîne une première réponse du SPVM, et donc l'implication de deux courageux policiers qui vont tout de suite se mettre à sa poursuite. Et donc, encore une fois, ce qui déstabilise Kim Weigel, au point où, perdant ce contrôle de la situation, ben le témoin qui possède le sac avec ses recharges en cartouche, puis son arme, est en mesure de garrocher, de balancer le sac le plus loin possible qu'il peut de Kim Wegel, puis de prendre la fuite.
Ouais.
Fait que déjà, là, il part avec beaucoup moins d'avantages dans sa planification.
Est-ce qu'il est ivre à ce moment-là? Parce qu'il disait avoir bu du whisky le matin même.
Ouais, de mémoire, il a 0.76 encore.
OK.
Lorsque l'expertise va être faite sur sa dépouille.
Et plusieurs étudiants l'ont croisé en entrant dans le collège avec les armes. Puis à cette époque-là, on n'était pas encore très familier avec les tueries dans les écoles. Hein. Les gens pensaient que c'était une blague.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, jamais on ne croirait ça. Là. Tu vois quelqu'un qui rentre. Ça, ça m'a un peu fasciné qu'en 15 ans environ, il y a tellement eu de tueries que ça n'arriverait plus. Ben, pas que les tueries n'arriveraient plus, mais que jamais on prendrait ça que pour une blague si on voyait quelqu'un arriver avec des armes.
C'est sûr qu'on a été nourri par... C'est un dur apprentissage qui s'est fait dans la dernière décennie. Bon, il faut quand même noter que la fusillade au collège Dawson est la dernière qu'on ait connue sur le territoire du Québec. Et c'est encore une fois quelque chose à saluer, autant en termes de prévention des différents professionnels qui interviennent sur ce type de problématique, que ce soit de traiter la menace, si certaines menaces sont identifiées, ou au contraire vraiment de faire de la prévention au quotidien. Mais oui, je te l'accorde, probablement qu'aujourd'hui les réactions auraient été différentes. Ouais.
Mais il a tout de même réussi à rentrer dans le collège.
Ouais. Il réussit à pénétrer à grands pas, on va dire, dans le collège. On a trouvé un plan des lieux en sa possession. Et il va aller se placer dans une voie qui ne lui permet plus par la suite de circuler, donc qui lui permet en revanche d'être une certaine sécurité face à l'intervention policière, puisqu'elle n'a qu'une issue, une issue qu'il va couvrir avec une arme de précision, rappelons-le maintenant, qui a cette fois évidemment pour lui une certaine utilité. Et il va se servir de plusieurs étudiants comme de boucliers humains.
Ben, à ce moment-là, est-ce que c'est la panique dans l'école, ou il y a encore plein de gens qui se demandent un peu ce qui se passe, ou les gens font leur vie, ou
non, la panique c'est clairement installé. Déjà un certain nombre de coups de feu ont été tirés de victimes déjà qui sont sévèrement
au sol, ouais.
sévèrement blessées au sol. Puis c'est là que il va commettre donc le meurtre de Anastasia de Souza, une jeune fille, jeune collégienne de Dawson.
Elle lui a servi de bouclier, en fait. C'est ça qui est triste de ce que je lisais, c'est qu'il s'est servi d'elle lorsque les policiers lui tiraient dessus. Il l'a pris, puis il s'est protégé avec elle. Puis elle a eu 9 balles, principalement dans l'estomac. Donc c'était assez fatal pour elle.
Ben, ce qu'on voit, c'est surtout que c'est la partie clairement dramatique de cet épisode, c'est qu'il s'est acharné dessus. C'est qu'après l'avoir atteint déjà, il a questionné un autre étudiant à savoir quel était l'état de santé d'Anastasia. Puis l'étudiant n'ayant pas été capable de lui répondre qu'elle était décédée, lui répondant qu'elle était évidemment pas forte. Ben, c'est là qu'il va lui dire maintenant elle l'est, après lui avoir tiré, je pense, 5 ou 6 balles.
Ah oui, mon Dieu, okay, c'est pas seulement les balles des policiers. Okay, mon Dieu. Parce que il a blessé 19 autres personnes quand même, puis plusieurs dans des états critiques.
Oui, ouais, très sévère.
Il y a même quelqu'un qui a encore une balle, je disais, qui a encore une balle coincée dans la tête depuis cet événement-là, qui se bat justement pour faire réglementer les armes automatiques, qui sont toujours légales encore
toujours.
Au Canada. Là,
Exact.
Donc, les policiers débarquent finalement et lui, il est au sol, il s'est donné la mort avec, je présume, son Glock qui est sur lui.
Il va y avoir une toute petite fenêtre de tir lorsque Kim Wegel va décider de faire un déplacement stratégique pour probablement fuir ce corridor où il est bloqué de toute façon. Et le policier qui va avoir cette fenêtre ne voit même pas Kim Wegel. Il peut juste en déterminer la présence par les bruits des détonations, puis par l'étudiant qui va lui servir de bouclier. Et donc, en voyant le déplacement de cet étudiant, ben, il va calculer quand est-ce qu'il va avoir Kimvir dans sa ligne de mire. Donc, il voit d'abord les bottes, puis finalement le haut du corps, et va se mettre en position, faire feu et l'atteindre au bras. Puis c'est à ce moment-là que Kim Vigil, effectivement, va retourner son arme contre lui.
Ouais, c'est toute une tragédie, cet événement-là.
C'est marquant.
Je serais curieux de voir, Guillaume, quelles ont été les conséquences au niveau de, par exemple, de la communauté de Vampire Freaks et la communauté en ligne. Est-ce que Kim Vigil a été accueilli un peu en héros, comme un peu les deux tueurs de Columbine sont encore morbidement vénérés de nos jours? Est-ce que ce fut le cas un peu de Kim Vigil, étant donné qu'il projetait cette image-là un peu, il recherchait l'attention, il recherchait l'amour? Est-ce qu'il y a une communauté qui le vénère quelque part?
Écoutez, les réactions ont été drastiques et aux antipodes les unes des autres. Il y a eu cette clientèle qui semble-t-il fait une certaine vénération de ce qu'ils considèrent être un sacrifice d'un des leurs. Encore, rappelle-toi tout à l'heure dont on discutait, avec des copies de sites qui vont être faites, des saluts, des hommages qui vont être rendus par certains membres de la communauté qui vont évidemment tout de suite être placé sous une haute vigilance par les corps policiers. Mais de manière générale, je te dirais que ça a été plutôt un rejet assez, assez important de cette communauté face à un acte qui ne la représente pas du tout. À commencer, rappelez-vous, je sais pas si vous vous souvenez, sa dernière entrée, là, qui parlait donc de la consommation. Mais il y avait la pièce sonore qui jouait.
C'est
Megadeth. Et Megadeth s'est dissocié d'une manière d'ailleurs très peu, que j'ai trouvé très très peu habile du passage à l'acte, un peu trop gros justement. Puis, mais ça a entraîné des réactions viscérales parce qu'évidemment c'est la communauté qui par la suite était visée. Le raccourci dont on parlait tout à l'heure médiatique entre une sous-culture underground puis un passage à l'acte implique par la suite des conséquences pour la somme de ceux qui gravitent dans la sous-culture. Et l'essentiel, évidemment, de ceux qui composent cette sous-culture, rejettent toute cette idée de violence. D'ailleurs, on s'entend, et puis ça c'est soutenu par un grand nombre d'études, cette communauté qui serait la communauté metalheads, est justement, généralement, très très en retrait des principes d'agressivité et de violence. Il y a eu des réactions épidermiques, là, c'est clair. Des deux bords, mais très très largement plus de personnes qui ont décrié le passage à l'acte de Kim Vigil.
Tant mieux, parce que même MTV avait retiré le vidéoclip à tout le monde, la chanson de Megadeth, parce que supposément que ça prônait le suicide, mais c'était une drôle de corrélation quand même.
Quand c'est pas ça, c'est Marilyn Manson, ou autrement c'est les jeux vidéo.
Marilyn Manson, rappelle-toi, c'est le lien qui a été fait en 99, la fusillade de Columbine. Les deux liens qui ont été faits, c'est Marilyn Manson qui a solidifié le lien entre communautés, entre guillemets, je verbalise mes guillemets gothiques, puis le passage à l'acte. Puis l'autre, c'est cette idée de trench coat mafia que l'on voit revenir également dans l'histoire de Vampire Freaks. Trench coat mafia qui, somme toute, n'a jamais été une réalité quelconque quelque part.
Non, mais parce que l'imagerie est forte dans ces histoires-là. Nous, on a couvert le cas dans notre saison 5 de Lindsay Souvanarat et la tuerie d'Halifax qui n'a jamais eu lieu. Puis c'était un peu un processus, on dirait, de radicalisation similaire. Puis même chose pour eux, ils voyaient ça presque comme un film. Donc la journée où ils allaient arriver au centre d'achat avec leurs vêtements soigneusement choisis pour l'occasion, je vais porter un t-shirt avec tel logo, je vais avoir mes cheveux de telle couleur. Même dans leur cas à eux, ils avaient même engagé un de leurs amis pour filmer tout ça parce qu'ils voyaient ça un peu comme un film. Donc l'imagerie, parfois
ça porte à croire qu'ils font tout ça pour
symbolique.
Oui, ils font tout ça pour pour l'image et pour la réputation en ligne.
Bah, t'as quelque chose de, je pense, t'as quelque chose de juste là-dedans. Puis ça a été souligné à plusieurs reprises, qui semble fédérer plusieurs des dossiers de fusillade scolaire. C'est un déficit d'image face à la masculinité. Et donc, à ce moment-là, effectivement, le passage à l'acte devient un symbole, une expression même de virilité. Puis les modèles d'identification dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont constituer le personnage dans le cadre du passage à l'acte, ben, reflètent tous cette idée de masculinité, de pouvoir, de domination. Et l'habillement en fait partie, et fait partie de ces symboles.
Est-ce que Kim Vergil avait une cible en tête quand il était parti faire son acte? Est-ce que, par exemple, c'était les femmes, comme c'était le cas de Marc Lépine? Est-ce que c'était plus précis que ça? Ou au contraire, lui, il voulait juste tirer un peu à gauche et à droite?
Si on regarde la typologie des auteurs de Turin-Masse, à l'intérieur de laquelle se trouvent les auteurs de fusillades scolaires, il y a quatre grands types d'auteurs de tueurs de masse, et de ces quatre grands types, les auteurs des fusillades de masse ont ça en commun, qu'ils ont tous des cibles préidentifiées. OK, à la différence des autres. Mais lorsqu'on parle de cibles qui sont préidentifiées, il faut voir ici non des cibles individuelles. Pour se qualifier et être qualifié d'auteur de tuerie en milieu scolaire, c'est pas l'individu qui vient tuer une personne spécifique, puis qui, dans le cas de ce passage à l'acte, va avoir d'autres victimes. On parle, oui, de cibles véridiques, mais ce sont des cibles qui sont, là encore, symboliques. Des individus qui représentent un groupe qui représente, encore une fois, cette idée d'autre dont on parlait tout à l'heure. Fait que si on revient en arrière, puis qu'on regarde la présence, encore une fois, de Kim Vergil sur Vampire Freaks, puis ce texte dont je vous parlais de janvier, et qui revient à plusieurs occasions dans ces mois, et qui reviennent la veille de son passage à l'acte, oriente sur ces deux parties, ces deux groupes de jeunes qui reviennent si souvent dans les fusillades scolaires, jocks, sportifs. Rappelez-vous Columbine, c'est la phrase avant de tirer d'Eric et Dylan, c'est jocks get up, les sportifs debout. Bah là, dans les différents titres de ces postes, c'est jocks and preps. Puis, si on regarde effectivement, Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces catégories-là sont des catégories que l'on sait qu'on va retrouver de toute façon dans n'importe quel établissement scolaire. Oui. Et encore une fois, il va être question de symbole, c'est-à-dire quel symbole me renvoie cette image que tu fais partie de cette catégorie-là. Parce que ce qu'on voit ici avec Kim Vergil, c'est que c'est aussi, et ce qui fait encore une fois sa spécificité à cette époque-là, c'est qu'il n'a jamais étudié à Dawson.
Oui, exact. Okay.
Ce qui faisait en sorte que dans les standards de l'époque et dans la définition posée par le FBI à l'époque, il n'était pas l'auteur d'une fusillade en milieu scolaire.
Okay.
Parce qu'il n'avait pas fréquenté et ne fréquentait pas l'établissement dans lequel il effectuait sa fusillade.
Non.
Mais peu importe, le quatrième point qui est, c'est l'existence de cibles symboliques permet d'évacuer cette problématique, parce que de toute façon, il sait que dans n'importe quelle institution, il va retrouver ceux à qui il impute la responsabilité de son mal-être, puis de son rejet. Puis si vous regardez parmi la somme de, tu disais 19 tout à l'heure, de victimes qu'a pu faire Kim Vergil, la jeune Anastasia, figure en termes de pyramide de hotness dans cette catégorie-là. Ainsi, tu parlais du garçon qui a encore une balle dans la tête, qui également pouvait être lu en termes de code et de symbole par Kim Vergil comme identifiable à ce qui représentait pour lui l'autre.
C'est incroyable.
Ah oui, c'est une histoire vraiment tragique. Toi, Guillaume, peut-être avant de conclure, tu t'es intéressé à cette histoire-là quand même en détail énormément. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont sauté aux yeux lorsque t'as fait des recherches là-dessus?
En fait, je me suis intéressé à ce drame très très rapidement pour une raison très simple, c'est que voilà, l'actualité venait d'être marquée par la fusillade à Dawson. À ce moment-là, j'enseignais déjà à l'Université de Montréal. Puis j'ai une de mes collègues qui m'a dit, écoute, elle donnait à ce moment-là un cours en psychocriminologie. J'aimerais ça avoir à 3 heures une conférence sur les fusillades scolaires, puis sur celle qui s'est produite à Dawson. Et pourquoi, en fait, elle m'a confié le mandat, c'est que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des individus ou des situations qui présentent tous les traits de ce qui semble être défini comme l'individu ou la situation problématique, puis qui finalement est une erreur, parce que justement, on parlait de profilage tout à l'heure, dans ton profilage, tu as mis certains éléments qui ne sont pas opportuns. Et en fait, la raison était simple, c'est que j'étais un insider, j'étais un faux positif, dans le sens où je faisais, fais toujours partie de cette sous-culture underground qui est la sous-culture métal. Et j'ai été porté naturellement, puis là encore, on parlait de réaction de la communauté, j'ai été viscéralement accroché à ce dossier-là pour essayer de comprendre, puis pour essayer aussi de démystifier certains des liens qui avaient été effectués. Puis pour les démystifier, ce qui est absolument essentiel, c'est de comprendre et connaître les codes. Et seul quelqu'un qui connaît cette sous-culture est capable de comprendre ses symboles et ses codes. Et donc, je me suis vraiment de manière très naturelle à pencher sur cette dimension criminologique qui était mon travail au quotidien, mais avec ce caractère d'être vraiment à l'intérieur de ce qui était la problématique qui était visée et qui était associée au passage à l'acte. Puis là, on parle de la sous-culture métal, mais on parle aussi de la sous-culture du gaming. Puis qui me définissent relativement bien dans mon quotidien, l'une comme l'autre. Fait que je te dirais que ce qui m'a accroché vraiment à l'origine, c'est de le regard des autres qui change sur moi au quotidien, et de vouloir en comprendre les motivations, la raison. Puis en dehors de ça, évidemment, l'approche criminologique qui était à l'intérieur même de mon quotidien.
Oui, tu sentais que ta sous-culture était peut-être attaquée, en fait, d'une certaine façon.
Non seulement elle était attaquée, mais encore une fois, vraiment, c'était plus. Pour moi, je vivais de manière plus dramatique que ça, parce que c'est le regard de la société sur moi qui avait changé. Je te dirais qu'avant la fusillade de Kim Weigel, puis à ce moment-là, je dis souvent, j'avais plus de métal sur moi que le pont Jacques Cartier, là.
Pourtant, aujourd'hui, t'es assez soft en termes de métal.
Que veux-tu, c'est la quarantaine.
Mais on peut quand même, le déceler par le style, tout de même. Tu gardes tes racines.
Ouais, mais c'est surtout le tournage de la série qui m'a fait me mettre plus fréquemment en costume qu'en bottes et trench coat. Mais avant cette fusillade, je pouvais évoluer et marcher dans la rue sans que les gens prêtent même une simple attention à moi. Ma vieille voisine me complimentait parce qu'elle trouvait que moi j'étais propre et
au moins t'étais propre.
Mais à partir de ce jour-là, quand tu rentrais dans le métro ou dans l'autobus, que tu croisais des gens, tu sentais chez eux la crainte, la peur, puis c'est quelque chose qui évidemment venait me chercher, que j'avais de la difficulté à comprendre. Fait que c'était aussi une mission de sensibilisation que de travailler là-dessus puis de l'exporter à l'université dans cette présentation, que de le faire aussi à l'intérieur des murs de l'école de police, parce que c'est devenu aussi une séquence importante du cours sur les phénomènes d'extrême violence dans la jeunesse, avec comme illustration le passage à l'acte de Kim Weir.
Est-ce que, selon toi, il y aurait eu des façons d'éviter ce crime-là? Ou est-ce que maintenant, avec du recul, un peu plus de 13 ans plus tard, il y aurait moyen de voir venir ces tragédies-là un peu plus?
C'est triste à dire, mais je n'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu, puis vous avez, comme moi, lu le rapport du coroner de l'époque, qui maintenant date quand même raisonnablement. Mais les choses n'ont pas tant changé. C'est-à-dire que, tu peux pas avoir une vigie aussi importante surtout. Puis quand on regarde le contenu et les photos qui étaient rendues accessibles par Kim Veer sur Vampire Freaks, bah, que tu reconstruis cette trajectoire, oui, effectivement, tu vois des signaux avant-coureurs. Mais il faut comprendre que des évaluations de la menace, là, il en arrive quand même assez régulièrement, oui, au corps policier, puis ils doivent déterminer ben, le caractère de l'urgence de la réponse. Fait que c'est difficile, difficile. Et puis la multiplication des plateformes rend très difficile cette vigie sur Internet.
Surtout que la dernière publication qui a fait une heure avant, il mentionnait pas cet acte-là, là, en fait.
Ben en fait, si tu regardes, non seulement celle-là, mais toutes celles qu'ont précédé dans la nuit.
Ça, il dévoilait rien de son plan.
Il y a rien. Il faut remonter un peu plus avant pour voir des signaux de violence, mais non, effectivement, quand tu regardes les 12 heures qui précède, c'est très casual, ça parle de tout et de rien. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile. Bon, on a d'autres cas en revanche de fusillades scolaires où les messages étaient adressés de manière plus claire. Ouais. Je me souviens notamment, je sais pas si vous vous en rappelez, mais de deux jeunes finnois. Donc en Finlande, à un an, séparés l'un de l'autre, qui avaient fait deux fusillades, et eux, leurs avertissements avaient été mis sur YouTube.
Okay.
Puis le contenu des vidéos était très très explicite, ce qui est différent de Kim Veer. Fait qu'au niveau ici de cette prévention sur les réseaux, je pense que ça reste quelque chose de difficile. Tu parlais tout à l'heure, Seb, des contrôles des armes à feu. C'est évident que ça reste être une dimension qui est éminemment problématique. Ouais. Et d'ailleurs, dans mes cours, je travaille souvent avec les étudiants en criminaux sur le niveau de violence aux États-Unis. Puis ce que je leur explique, c'est que contrairement à leur première idée de base, qui est de dire que c'est la circulation des armes à feu qui explique la violence aux États-Unis, ben, tristement, non. Parce que si tu contrôles le mode opératoire, puis que tu retires les homicides par armes à feu, t'as toujours autant de disproportions. Ah, okay. En revanche, ça n'aide pas. Ça n'est clairement pas. Puis si on regarde les deux rapports qui ont été écrits par le FBI sur les fusillades en milieu scolaire, qui en ont suivi deux, 99, Columbine, leur première étude, puis ensuite, c'est 2013 de mémoire, celle qui suit la fusillade de Sandy Hook en 2012. Oui. Okay, puis qu'on retrace toutes les tueries de masse, puis les fusillades en milieu scolaire comme sous-catégorie, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nette progression. Okay, c'est pas une illusion d'optique, là, il y a une nette progression. Mais cette progression, elle est surtout sensible à compter de 2006. Okay, à compter de 2006, on a une augmentation du nombre, de la récurrence des tueries de masse. Mais l'autre variable qui est importante à considérer, c'est le nombre de victimes. Le nombre de victimes augmente. C'est logique, à mesure qu'augmente le nombre par mois ou par année de tueries de masse, augmente le nombre de victimes. Mais plus pertinent, ici, ce qu'on voit, c'est que par événement, le nombre de victimes augmente. Okay. Et la raison ici en est simple, c'est l'utilisation de dérivés d'armes militaires.
C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux dire?
Bah, c'est-à-dire, je regarde les dernières tueries aux États-Unis, elles impliquent à peu près toutes le même modèle d'armes, dérivés d'armes militaires, qui s'appelle l'AR, okay, qui est une arme qui est évidemment fort dévastatrice et qui ne circulait pas dans ces proportions auparavant.
Ah, okay, je comprends.
Ici, vraiment, il y a une réflexion sociale à faire évidente. C'est même assez triste d'en être encore rendu à dire qu'il y a une discussion évidente à faire là-dessus. Mais le contrôle, restreindre le contrôle. Puis surtout, ça aussi on trouve dans la littérature sur les fusillades scolaires et sur les tueries de masse, lorsque tu as des problématiques de santé mentale, des problématiques de troubles de personnalité, des problématiques de dépression, comme c'est ici ce qui avait été diagnostiqué pour Kim Veer, cette capacité d'acheter trois armes en l'espace d'un laps de temps excessivement court, quelques mois, c'est quelque chose qui est très questionnable.
Oui, parce que c'était tous légal, hein, ces armes.
Ah oui, c'était toutes legit. Certaines étaient réglementées, mais tout à fait legit. Mais finalement, la dernière chose, puis je pense qu'on avait commencé là-dessus, La première chose que je vous ai dit, c'est que avant d'être un acte criminel absolument dramatique, c'est un suicide. La meilleure manière de prévenir ce type de manifestation, c'est de les traiter sous l'angle du suicide et de la prévention au suicide et non pas sous l'angle de l'acte criminel. Et qu'on aura bien beau, comme on le voit aujourd'hui, de faire en sorte que dans les écoles, il y ait des exercices à l'image des exercices d'incendie. Okay, on a des exercices de confinement. Un, ça déstabilise pas mal plus la population des petits-enfants à qui on fait vivre cet événement-là, que ça va être d'une réelle utilité sur le terrain. Non, c'est vraiment sous cet angle de travail sur le suicide qui est une réflexion à faire parce que particulièrement chez nous, quand même, on sait une réalité assez triste à cet égard, que l'on peut avoir le plus gros impact sur ce qui va devenir par la suite un crime.
C'est une réflexion intéressante.
Guillaume Louis, on te remercie énormément de ton temps pour avoir participé à cet épisode de Distorsion.
Ah, ce fut vraiment
Oui.
un très grand plaisir
Oui.
que j'espère éventuellement voir se reproduire.
Absolument.
J'espère bien, j'espère bien. Les Distordus, si vous voulez discuter avec Guillaume à longueur de journée, on vous suggère de vous inscrire au certificat d'enquête et renseignement de la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. Vous pouvez le faire au fep.umontréal.ca. FEP, c'est pour Faculté d'éducation permanente. On vous rappelle aussi qu'on a enregistré un segment spécial crime en série avec Guillaume, exclusif pour nos abonnés. Oui, monsieur, sur Patreon. Et là, on va discuter plus spécifiquement du cas de Guy Croteau, donc un violeur en série, meurtrier québécois, bien connu, que Guillaume a eu la chance d'investiguer un petit peu. Donc ça, c'est pour nos abonnés Oui, monsieur, au patreon.com/distorsion. Et ben encore merci, Guillaume.
Merci. Et encore merci à tous les deux.
À bientôt. À bientôt.